7:04.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Ailleurs dans le monde, bonsoir Michael Thébault.
Et bonsoir Nicolas.
Après la littérature américaine, il y a quelques minutes avec notre invité Adrien Bosque, on retourne aux États-Unis pour évoquer cette fois la présidentielle côté programme, Michael.
Et avec un moment important dans cette campagne, le débat ce soir entre les colistiers des candidats à la Maison-Blanche, Tim Kaine pour Hillary Clinton et Mike Pence pour Donald Trump. Débat en direct de l'université Longwood à Farmville, c'est en Virginie. Alors en général, hein, faut bien le dire, ce débat des colistiers est assez technique, pointu, un peu boudé du grand public américain. Et pourtant, on y apprend beaucoup de choses, car parmi les sujets abordés figure en bonne place la politique étrangère. Qu'entend mener le prochain président des États-Unis ? Bonsoir Bertrand Galichet.
Bonsoir.
Alors, on va décrypter avec vous les grandes lignes de ces deux programmes. Avec vous, Bertrand, et les experts que vous avez rencontrés il y a quelques jours à New York.
Et la grande différence entre Hillary Clinton et Donald Trump en matière de politique étrangère, c'est d'abord l'expérience engrangée par la candidate démocrate en tant que secrétaire d'État entre 2009 et 2013. Dans ses meetings et dans ses interviews, elle se vante d'avoir visité 112 pays et parcouru 1,5 million de kilomètres. Mais son bilan diplomatique est maigre et son image plutôt brouillée. Nous voici au 16e étage d'une tour du quartier de Wall Street avec l'avocat d'affaires Christopher Kennedy, habitué des grands dossiers internationaux.
Elle est beaucoup plus publique que M. Kerry maintenant, qui travaille derrière des portes fermées, tandis que Mme Clinton, bien sûr, elle prenait ça très au sérieux, mais pensait toujours à sa candidature pour être président, quelque chose que je pense elle cherche à obtenir depuis que son mari était président.
Le fait qu'elle ait finalement utilisé ce portefeuille des affaires étrangères un peu pour sa carrière, ça choque un certain nombre d'électeurs démocrates.
Je crois que oui, il y a des questions sur ça et sur sa fondation également. Le fait que des intérêts étrangers ont fait des donations très importantes. Il n'y a pas de preuve qu'ils ont reçu quelque chose de réciprocité pour les donations, mais ce qu'on dirait encore en anglais, appearance of impropriety. Ça laisse entendre, ça sent un peu.
Des apparences d'irrégularité pour certains, mais aucune preuve, rien qui puisse mettre Hillary Clinton en difficulté. En revanche, l'ancienne secrétaire d'État traîne comme un boulet l'affaire de sa messagerie électronique et aussi son manque d'anticipation dans l'attentat de Benghazi qui avait coûté la vie à un ambassadeur américain.
Et du côté de Donald Trump, disons plutôt novice, on va rester poli, en matière de politique étrangère, c'est parfois assez flou quand même.
Oui, on se souvient de ses déclarations à géométrie variable sur les musulmans ou sur sa relation avec le Mexique. Sur le Proche-Orient, difficile de s'y retrouver, Donald Trump se range résolument aux côtés d'Israël, tout en affichant un principe de neutralité. Dans son bureau de l'université de Columbia à New York, le professeur de relations internationales Robert Jarvis a son explication.
Vous avez probablement réfléchi au sujet plus que lui. Ce qui pourrait plaider en sa faveur s'il est élu, ce qui est improbable mais pas impossible, c'est l'instinct d'une nouvelle négociation. Il aime négocier. Si ça arrive, ce serait certainement la négociation la plus difficile qu'il ait jamais faite et un vrai défi.
Comme un homme d'affaires ?
Oui, avec un ego incroyable. Donc il pourrait dire, moi, Donald Trump, je ferai ce que personne n'a réussi à faire. Mais c'est très difficile à dire. On ne sait rien de ses conseillers en politique étrangère.
Mais il y a tout de même un domaine où Donald Trump fait preuve de constance, Bertrand, c'est dans sa relation avec Vladimir Poutine.
Oui, un dirigeant envers lequel le candidat républicain montre une admiration sans borne, au point de suggérer que les États-Unis pourraient entériner l'annexion de la Crimée. Monica McDermott enseigne les sciences politiques à la Fordham University à New York.
Oui, il semble lié à Poutine. Les gens sont inquiets de sa fascination pour Poutine, de son admiration pour Poutine. Car la plupart des gens voient Poutine comme un terroriste potentiel, un dictateur. Trump semble sympathiser avec les dictateurs davantage que ce que l'on attend d'un président américain.
L'apologie du dirigeant russe par Donald Trump résonne comme une alarme auprès de nombreux électeurs indécis. Bjorn, un jeune Américain qui travaille à l'Alliance française de New York, votera contre Trump, même si la politique étrangère de Hillary Clinton ne l'enthousiasme pas.
Je sais un peu ce qu'elle a fait. Moi, je suis vraiment contre l'idée de les États-Unis comme un État impérialiste. Et donc je crois que c'est pas du tout à nous de dire à tout le monde qui peut faire quoi. Et ça me fait un peu trop peur parce qu'elle a soutenu des guerres et des trucs comme ça. Moi, je suis beaucoup plus pacifiste, mais quand même, on doit dire que Donald Trump, elle soutient toutes les guerres, elle est vraiment pro les États-Unis, pro America. Et donc, je crois que c'est Hillary Clinton est mieux pour l'idée de plus de liberté internationale et plus de communication internationale.
Voilà pour ce jeune New-Yorkais, Bertrand Galichet, merci beaucoup. Débat des colistiers hein, donc ce soir en Virginie. Et deuxième débat entre Hillary Clinton et Donald Trump, ce sera dimanche prochain le 9.
Rien à voir, Michael. On part maintenant au Portugal pour parler télévision.
Et plus précisément d'une toute nouvelle émission de télé, une émission sportive qui fait déjà couler beaucoup d'encre, puisque les protagonistes du programme sont des prêtres. Bonsoir, Olivier Bonamici, en direct de Lisbonne.
Bonsoir.
Alors, pour se faire d'abord une petite idée de l'émission intitulée Le Dernier Chapelet, je vous propose d'écouter un extrait de la bande-annonce.
Padre Paulo Franco, 43 anos, sócio do Benfica, portador de Red Pass, lugar que só fica vazio quando estou na missa.
Bon, je vous avoue que je n'ai rien compris, je ne parle pas portugais, Olivier. Pour résumer le concept, vous m'arrêtez si je me trompe, ce sont donc des prêtres, spécialistes de sport et qui ne parlent que de cela.
Oui, pendant une heure hein, chaque semaine, et dans la bande-annonce là, qu'on vient d'écouter, alors il y a d'abord le père Carlos, alors il est supporter du Benfica. Je suis abonné depuis tout petit, dit-il, et le seul moment où je rate les matchs, c'est quand je célèbre la messe. Il y a ensuite le père Nuno, alors pour lui c'est dur en première place, et le FC Porto en seconde, et puis il y a le père Paolo. De mon père, dit-il, j'ai reçu la foi en Dieu, de ma mère, la passion du Sporting. Trois hommes, trois prêtres, et ça marche très très bien depuis que le Dernier Chapelet est à l'antenne. C'est un programme de football, depuis que ce programme est à l'antenne, il y a environ trois semaines maintenant.
Alors justement, hein, trois émissions diffusées, est-ce qu'on peut tirer un premier bilan, lequel, et est-ce que ces prêtres commentateurs s'y connaissent vraiment en foot ?
Impressionnant, tactiquement, ils sont capables d'expliquer la différence entre un 4-3-3 et un 4-2-3-1, capables de vous sortir le nom de tous les joueurs qui étaient sur la pousse il y a 30 ans. Mais quand ils débattent ensemble, ils sont comme tout bon supporter qui se respecte de mauvaise foi, des prêtres de mauvaise foi, hein, quand ils parlent football. Même si ça reste très bon enfant, on sent que ça les démange, on sent qu'ils ont envie de hausser le ton, mais ils arrivent quand même à se contrôler.
Bon, du côté des spectateurs, est-ce que ça choque les Portugais que des prêtres comme ça parlent foot toutes les semaines ?
Non, pas du tout. Alors, d'abord, il n'y a aucune tension religieuse au Portugal. Ça se passe vraiment dans un climat très bon enfant, aucune polémique par rapport à tout ça. Il y a quelques anecdotes, d'ailleurs, qui en disent long sur les liens étroits entre le foot et la religion ici. C'était juste après l'Euro 2016. La presse portugaise avait publié une lettre du sélectionneur Fernando Santos, et après avoir remporté l'Euro, ses premiers remerciements ont été pour, je cite, « Dieu le Père ». Et puis, autre anecdote personnelle, si vous me permettez, pendant l'Euro, j'étais invité à un débat à la télé portugaise, de mes côtés, il y avait un collègue portugais, on parlait justement du travail du sélectionneur, et là, mon confrère a avoué à parler de la force des évangiles, que cela avait aussi aidé le sélectionneur pendant l'Euro. Là, je ne sais plus trop quoi dire, moi, mais j'avais compris qu'il n'y avait aucun complexe à parler de sa foi, même dans une émission de football, et puis une coïncidence comme extraordinaire et heureuse pour l'Église catholique. L'autre jour, il y avait un match là entre le Sporting et Porto, et tenez-vous bien, l'entraîneur du Sporting s'appelle Jésus, et l'entraîneur du FC Porto s'appelle lui Espirito Santo, autrement dit Esprit Saint, et bien sûr, la chaîne a vendu ce match en disant que c'était le match entre Jésus et l'Esprit Saint.
Ça ne s'invente pas. Et en radio, dernière question, Olivier, est-ce que l'Église catholique a autant de poids qu'en télé ?
Oui, beaucoup plus, tout simplement parce que l'Église est propriétaire de quatre radios, dont la radio musicale RFM, leader de l'audience au Portugal. En revanche, il y a une autre radio du même groupe là, qui a une connotation beaucoup plus religieuse avec une identité catholique très marquée, c'est Radio Renaissance, là encore très écoutée. Et tous les jours sur Radio Renaissance, entre 18h30 et 19h, il n'y a pas l'équivalent d'un jour dans le monde. En revanche, on peut entendre ça.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação.
Qu'est-ce que c'est ?
Voilà, bah c'est la lecture du chapelet en direct de Fatima tous les jours pendant une demi-heure, donc de 18h30 à 19h sur une des radios les plus écoutées du pays, Radio Renaissance.
Olivier Bonomici, en direct de Lisbonne. Merci beaucoup, Olivier.
Télévision encore, Michael. Cette fois en Turquie, avec cette scène surréaliste en direct ce matin, à l'antenne de IMC TV.
Mais c'est beaucoup moins drôle, hein. IMC TV, chaîne privée pro-kurde, basée à Istanbul, et dont les bureaux, les studios et la régie ont été envahis par la police turque ce matin, peu avant 10h. On est en pleine émission. Journalistes et invités sont en direct. Les agents débarquent, accompagnés de techniciens missionnés par les autorités pour débrancher tous les câbles. L'invité en plateau dénonce aussitôt un déni de démocratie, l'autoritarisme du régime Erdogan. Même cri, même slogan dans les couloirs. Tout le personnel converge vers le plateau, suivi par les caméras et les smartphones qui filment.
Evet, şu anda stüdyomuza da girdi polis ekipleri.
Şunu söyleyebiliriz. Çok net. Biz yayındayız. Rahatlıkla gelin. Sizinle ilgili bir sorunumuz yok. Biz demokrasinin sesiyiz. Biz
darbe. Et tout cela est donc retransmis en direct, Nicolas, mais pour quelques instants seulement, car au bout de 4 minutes à peine, tout s'arrête, écran noir, télévision désormais interdite de diffusion, sa faute. La chaîne défend les droits de la minorité kurde, l'écologie et pire encore, bien sûr, la démocratie, la liberté d'expression et même, tenez-vous bien, le féminisme. Mais pour le gouvernement turc, la chaîne est d'abord liée au parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, classé terroriste par Ankara. Bref, vous l'avez compris, dernier épisode de cette volonté du pouvoir de museler tous les organes de presse qui ne seraient pas pro-Erdogan. Et pour finir, Nicolas, petite devinette, qu'est-ce qui a changé depuis 2 jours dans le traitement des fonctionnaires saoudiens ?
Je ne sais absolument pas.
Eh bien, depuis dimanche, Nicolas, en Arabie Saoudite, tous les fonctionnaires sont payés désormais selon le calendrier grégorien et non plus selon le calendrier islamique. Car dans ce dernier, le célèbre calendrier de l'Égir, l'année compte 12 mois de 29 ou 30 jours selon l'observation de la Lune. Et passer au calcul grégorien va permettre au royaume d'avoir moins de jours à payer, 11 de moins. C'est une moyenne, autrement dit, faire des économies. C'est la dernière mesure de ce vaste plan d'austérité lancé pour compenser l'effondrement des cours du pétrole brut. Et quelques jours en moins à payer, ça peut rapporter gros quand on sait que l'Arabie compte 2 fonctionnaires pour 1 salarié du privé et les seuls salaires des fonctionnaires saoudiens représentent 45% du budget national. À demain.